20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. De l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Telle est la devise flanquant la stèle de bronze du Danton face au 97 du boulevard Saint-Germain à Paris. La République de 1889 n'est pas la seule à rendre hommage à cette audace, puisque ce soir un préhistorien se consacre à la hardiesse, l'intrépidité des hommes, des premiers hommes qui eurent pour devoir de vivre debout. L'audace fut-elle un moteur de l'évolution humaine ? À n'en pas douter. Mais seul Marcel Ott pouvait traiter un sujet si ambitieux. Marcel Ott, bonjour.
Bonjour.
Historien, paléo-anthropologue, vous êtes professeur de préhistoire à l'Université de Liège et publié prochainement aux éditions Odile Jacob, La contrainte et le rêve, ou comment l'humanité s'est-elle constituée ? Marcel Ott, la conscience aurait-elle pu jouer un rôle essentiel dans l'évolution humaine ?
Pour moi, la conscience est le seul moteur à l'évolution humaine. Et j'ajoute tout de suite que je ne crois pas que ce soit seulement l'évolution humaine. Je pense que la lucidité, dans chaque espèce, lui donne une considération sur la situation dans laquelle il se trouve et les moyens de trahir ces conditions dans lesquelles il se situe, c'est-à-dire de créer une existence qui lui soit propre. Et ceci va combattre toutes les lois naturelles, soit les lois naturelles de sa propre biologie, soit les lois de son environnement. Et il est difficile d'imposer cette idée parce qu'en général, on se dissimule derrière des lois qui seraient extérieures à nous-mêmes. Et ce qu'on appelle le déterminisme. Je crois qu'il faut être responsable, un peu comme tous les philosophes ou tous les historiens habituels, et de reconnaître que c'est notre pensée qui crée notre évolution et notre histoire, même très récente, et que nous devons assumer cette responsabilité. C'est peut-être par peur de cette responsabilité que généralement les paléontologues ou les sciences naturelles refusent cette responsabilité à la conscience de l'homme dans son développement. Je pense qu'il faut l'assumer totalement, oui.
Peut-être faut-il s'accorder sur ce que nous appelons humanité, vous et moi, mais aussi nos ancêtres primaux qui n'étaient pas encore des hommes ?
Il y a un moment, en effet, où les primates, les autres primates ont suivi leur propre voie et puis nous avons suivi la nôtre. Il y a certainement un passage très graduel qui fait que finalement la trajectoire de l'humanité s'est détachée des autres trajectoires. Mais puisque nous en sommes là, il faut tout de même bien voir que les primates dont nous dérivons n'étaient certainement pas les mêmes que les autres primates que nous connaissons autour de nous, comme les orang-outans ou les gorilles ou les grands singes en général. Ils ont connu eux aussi une évolution paléontologique et probablement cognitive tout autant. Il n'y a aucune raison de restreindre l'évolution à l'humanité et encore moins de la retrancher à toutes les autres formes de primates ou même d'animaux en général. Toutefois, ce qui nous intéresse évidemment, ce qui nous touche de plus, c'est l'évolution, le mécanisme évolutif qui nous a fait nous aujourd'hui. Et j'ai la prétention de croire que si nous parvenions à comprendre ce mécanisme au fil du temps, sa constitution, nous serions à même de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup plus et beaucoup mieux que par la neuropsychologie ou par la neurologie ou par toutes les autres sciences qui ne travaillent que sur le contemporain, que sur la synchronie. Nous avons une responsabilité terrible en matière de préhistoire humaine, c'est de définir quelles furent les étapes traversées par la constitution de notre société humaine. Cette trajectoire propre à l'humanité permettra de comprendre et de justifier, le cas échéant, ce que nous sommes aujourd'hui, bien au-delà de toute théorie philosophique.
Pour vous, Marcel Ott, les Australopithèques avaient conscience d'eux-mêmes ?
Ça ne fait pas nombre d'un doute, oui. Je regrette que mes collègues ne le conçoivent pas aussi volontiers. Je pense que n'importe quel personne un peu attentive au comportement de son animal domestique comprend très bien qu'il y a une conscience rétrospective entre soi et les autres, chez toute espèce animale. Et donc, il n'y a pas de raison d'arracher cette possibilité chez l'australopithèque. Ceci dit, l'australopithèque, lui, à la différence des autres animaux que nous voyons chaque jour, celui-là, il a donné naissance à notre humanité. Du moins, c'est une grande probabilité. Donc, nous devons comprendre le comportement cognitif, y compris de l'australopithèque, afin de comprendre quel fut l'enclenchement originel qui a conduit à l'humanité actuelle. Donc, ce qui se passe chez l'australopithèque n'est pas simplement un aspect du comportement animal en général, mais bien un certain moment de l'évolution qui a enclenché ce que nous sommes devenus.
En tout cas, envisager le rôle de la pensée dans nos origines les plus lointaines, voilà une idée qui est loin d'être acceptée aujourd'hui par les chercheurs.
Aujourd'hui, comme vous dites, elle le sera peut-être. Et je regrette évidemment que le déterminisme naturaliste obscure, dissimule les véritables mécanismes. Si nous considérons l'ensemble de l'évolution humaine, il ne fait aucun doute que la conscience a participé à cette évolution. Je ne suis pas en train de dire que les aspects biologiques, les aspects fonctionnels n'ont joué aucun rôle. Mais je pense que la fonction anatomique, par exemple, a suivi le déclenchement de la pensée. Et que, par exemple, si nous sommes tenus debout, c'est parce qu'on a eu l'audace, justement, de le faire et en même temps, ainsi, de quitter la forêt et en même temps aussi de créer des outils et de créer de l'habitat. Il fallait que cette audace précède la station érigée, qu'elle précède aussi la protection forestière, la libération de la protection forestière, pour que cette transformation anatomique suive. Donc je pense que la biologie est une affaire secondaire par rapport à l'audace ou à l'imagination qu'il fallait concevoir pour transformer son mode de vie et quitter le milieu naturel.
Marcelotte, vous écrivez « Refuser le rôle de la pensée dans nos origines les plus lointaines, c'est aussi se démettre de notre responsabilité, c'est refuser nos seules chances d'exister, le devoir de vivre debout ».
Mais oui, c'est assez curieux, parce que, et nous arrivons peut-être au cœur du problème, c'est que les sciences philosophiques, les sciences théoriques, disons, de l'histoire ont bien montré à quel point la pensée a été cruciale pour la constitution des sociétés occidentales, par exemple, les sociétés humaines en général. Or, lorsqu'il s'agit des périodes les plus anciennes, il y a une sorte de phobie, de crainte, et on veut se ramener toujours les questions évolutives à des lois biologiques. Or, je pense que nous démettons de notre responsabilité, en effet, puisque l'on dit « tout ça, c'est naturel ». C'est donc d'origine extérieure à notre pensée et donc extérieure à notre réalité actuelle aujourd'hui. Je pense que c'est une manière de ne pas assumer sa responsabilité en tant qu'intellectuel. Alors comme ça, on fait fi tout à coup, pour certaines périodes de l'histoire humaine, de tout ce que l'humanité est en réalité, et tout ce que les sciences philosophiques peuvent nous apporter. Je pense par exemple à la philosophie de l'histoire, qui a bien montré que toutes les périodes de l'histoire ont une cohérence, ont une logique, sans doute discutable bien entendu, mais on ne peut pas éliminer ces lois comportementales simplement en disant « tout ça est naturel ». Je pense que nous devons reprendre notre responsabilité au départ.
Pour vous, l'humanité ne mérite son nom que dans ses choix, lucide et déterminé. Vous vous opposez donc à penser que tout serait déjà contenu dans nos gènes, dans notre nature ?
Bien entendu, je suis allergique au déterminisme génétique, par exemple, puisque c'est une manière un peu peureuse, pour le dire simplement, de se décharger dans nos responsabilités. On dit, bon, c'est dans les gènes, par exemple, le gène de la criminalité, le gène de l'homosexualité ou n'importe quoi, serait donc déterminant dans notre comportement. Je pense que c'est la première chose sur le plan éthique, sur le plan moral, c'est se défaire à bon compte de notre propre responsabilité. Je pense que tout dans la pensée, dans le comportement occidental, est une affaire de choix. Et s'il y a un choix, nous sommes donc responsables de ce choix. On ne peut pas se dire il y a un déterminisme, par exemple microbiologique, encore moins, je dirais, de l'ADN, puisque nous rentrons, je fais une petite parenthèse, si nous parlons de l'ADN, nous rentrons dans une mythologie, dans un dogme que personne ne comprend. la plupart en tout cas ne comprennent pas, et d'autre part, ils l'admettent, ils le croient. C'est le fonctionnement mythologique par excellence. On doit croire ce qu'on ne comprend pas. Donc, moi, en tant qu'intellectuel, je pense que nous devons avoir le courage de dire nous ne nous satisfaisons pas de ce que nous ne comprenons pas. Et surtout, que tout ce qui est spirituel, tout ce qui est décidé, tout ce qui est choisi et qui est le moteur à notre transformation, lui, est notre responsabilité seule. On ne peut pas échapper à cette responsabilité. Et c'est ce que font, je vois bien le sens de votre question, c'est ce que font la plupart des scientifiques, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui se cachent derrière des lois extérieures à l'humanité pour dire, voilà, l'homme est fait comme ça et nous ne pouvons rien y changer.
Marcel, vous êtes en totale rupture avec l'ère du temps où les lois biologiques et les contraintes environnementales priment dans les problématiques des chercheurs?
Oui, bien sûr, mais cette rupture ne me déplaît pas. Ce n'est pas, voilà, c'est une incarnation de l'audace dont vous parliez tout à l'heure. Ceci dit, lorsque certaines tendances, faut pas généraliser, mais comme vous dites, c'est quand même dominante, certaines tendances se cachent, se dissimulent derrière certaines lois, eh bien, je pense que c'est une manière de réintroduire l'aspect mythologique dans le comportement humain. C'est-à-dire que l'on va estimer que des choses ne sont pas connues, mais doivent être admises telles quelles. Et chaque fois que l'on se réfère à une biologie moléculaire ou à des lois évolutives, on échappe à ses responsabilités. C'est donc bien ça que je veux souligner dans ces deux livres successifs, c'est que la tendance actuelle, qui me paraît très perverse, est de dire la plupart des choses qui nous déterminent nous échappe. Et pour moi, ça, c'est la grande erreur de ce qu'on appelle la science, entre guillemets, qui, à mes yeux, dans le domaine public en tout cas, fonctionne exactement comme toutes les mythologies, peut-être même les religions les plus intégristes, puisque sans reconnaître la science, on tombe dans l'exclusive, on tombe dans l'anathème et on est exclu d'une société. Je pense que nous devons reprendre nos responsabilités de citoyens et de scientifiques contre des choses qu'on ne comprend pas et qu'on nous impose néanmoins via les médias, par exemple.
Si nous sommes descendus de l'arbre, avons quitté la forêt, où sommes mis debout, c'est aussi parce qu'il y a évolution, des modifications anatomiques décrites par les paléontologues ?
Non, c'est l'inverse, évidemment. C'est parce qu'il y avait une possibilité, via l'imagination, de vivre autrement que les conditions anatomiques ont pu se développer. Donc, nous avons eu l'imagination de quitter la forêt, probablement pour des raisons simplement d'audace et de faire autre chose, de voir autre chose, comme tous les découvreurs finalement, comme toutes les imaginations qui nous poussent vers quelque chose d'exaltant, de mieux, de plus beau aujourd'hui. C'est finalement ça la vraie valeur humaine. Et il n'y a aucune raison de voir un moment où ces valeurs surgiraient. Elles sont toujours là. Donc l'anatomie n'a fait que suivre l'adaptation à cette imposée par cette imagination. Par exemple, donc en effet, la station érigée, la station debout, puisque nous étions en plaine, nous avons quitté les zones forestières, il fallait que l'on ait cette imagination-là avant. Et ensuite, l'adaptation anatomique s'est adaptée à cette nouvelle pensée, à cette nouvelle audace, en effet. Et ainsi de suite, car tout ce qui concerne, par exemple, l'homme moderne...
La sortie d'Afrique.
Oui, la sortie d'Afrique, tout ça c'est évidemment du domaine du dogme, donc de la mythologie, c'est à laquelle je ne crois pas une seconde, que tout intellectuel doit contester au moins, c'est que cette disposition anatomique qui permet de devenir moderne, c'est-à-dire analogue aux populations actuelles, n'a été faite que par rétroaction de la nature, l'aptitude de la culture, sur la nature. Dès que nous avons pu maîtriser des objets, donc créer des concepts, transformer l'environnement, eh bien, notre anatomie s'est adaptée à cette nouvelle conquête spirituelle.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Marcelotte, pourquoi cette idée de conquête par l'esprit n'est-elle jamais évoquée dans les discours scientifiques ? Les chercheurs manqueraient-ils d'audace ?
Oui, sûrement, oui, je crois, oui. Mais c'est un problème, en effet, fondamental dans le domaine de la structure scientifique en général. Je pense que s'il y avait cette audace, eh bien, elle serait réprimée immédiatement parce qu'elle ne pourrait pas être considérée, ne pourrait pas être reconnue et elle ne pourrait pas être gratifiée par les milieux scientifiques. Il y a une crainte assez curieuse et certainement fatale d'introduire des réflexions de caractère spirituel, intellectuel, dans un domaine qui se désigne soi-même comme scientifique. Or, je pense que si nous touchons à l'évolution humaine, nous devons toucher au domaine spirituel. Et là, vous touchez à un problème fondamental qui est la séparation, la rupture entre toute la masse de données philosophiques, données philologiques, l'histoire des religions, qui est très bien connue, très bien articulée, très logique et très cohérente, et l'information de nature biologique et malheureusement, dans sa suite, les préhistoriens n'ont fait qu'accumuler des données sans leur donner un sens. Et c'est assez paradoxal, puisque nous disposons ici en France, par exemple, des deux catégories de données qui devraient fatalement, et de manière très fructueuse, se réconcilier, se féconder. Si on laisse parler les philosophes de préhistoire, ça va être peut-être très intéressant, mais ça risque d'être très limité puisqu'ils ne maîtrisent pas les données archéologiques. Que de l'autre côté, si on laisse parler que les préhistoriens, ils ne vont pas, peut-être pas maîtriser les données fondamentales de la pensée philosophique qui prouvent que le comportement humain est très cohérent à travers tout le temps. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Ça, je n'en sais rien.
Même s'il n'est pas le seul, l'homme, c'est l'outil, la technique qui débute il y a environ 3 millions d'années?
Oui, c'est-à-dire que l'outil est un reflet de cette aventure, en même temps que l'outil, comme dans toute civilisation, reflète aussi la définition de l'homme par rapport à soi-même. L'outil est en quelque sorte le reflet des membres, des quatre membres de l'humain, et il n'existe, ces membres, que dans la mesure où ils deviennent efficaces, efficients. Donc, la pensée ne va leur donner une signification à ses membres que lorsqu'ils vont être utiles via l'outillage. Donc, l'outillage est un prolongement, en effet, d'une anatomie qui elle-même va se trouver justifiée aux yeux du créateur par les objets qu'elle maîtrise. Donc, vous voyez, il y a une relation très profonde entre la création d'un nouvel univers par la pensée et l'interaction entre les outils, les membres et une réaction, disons, matérielle entre cette anatomie maîtrisée par l'intelligence et l'action qu'elle a sur le monde. On parle alors d'action démiurgique, c'est un grand mot, mais ça veut dire que ça s'oppose à ce qui est donné par les dieux. Si les dieux auraient fait par exemple la nature, eh bien l'homme par son audace et par ses outils en particulier va modifier non seulement la nature, mais en même temps et surtout sa relation à la nature. Il va donc devenir lui-même, il va devenir humain.
Cette technique reflète d'abord la pensée. On ne s'en doute pas, mais les actes de percuter, de scier, de racler sont à la base de ce qui nous permettra aujourd'hui d'aller dans le cosmos.
C'est-à-dire que c'est un enclenchement. Lorsqu'on obtient une action sur les matières, on obtient surtout la connaissance de cette maîtrise sur la matière. Et ainsi, on devient l'égal des dieux. On devient le défi même des lois naturelles. Et cet enclenchement, donc on peut parler du couteau vers la fusée interplanétaire, mais c'est donc un schéma bien sûr réducteur, mais en même temps, on en revient au principe de l'audace, c'est-à-dire une audace qui est rétribuée par sa propre action et qui se trouve ainsi justifiée. On arrive dans un système de rétroaction, plus la pensée a de l'audace, plus cette audace est efficiente, plus le mode de vie s'en trouve gratifié, s'en trouve modifié, et plus cette audace elle-même prend de l'importance dans l'évolution. Donc c'est vrai que toute action mécanique d'il y a quelques millions d'années est une sorte de prolégomène, un avant-goût de ce que seront toutes les autres. Le but principal, le mécanisme principal de cette fonction est de donner l'assurance à la pensée qu'elle peut transformer le monde et donc de devenir elle-même.
Par chance, il n'y a pas que la technique. Comprendre une culture, c'est d'abord comprendre ses mythes. Que peut-on dire autour de ces mythes pour des périodes aussi reculées?
On peut dire que, bon, il y a des reflets assez évidents, comme les sépultures ou l'art, mais tout ce qui touche à la métaphysique est une matière proprement humaine. Donc je vais aller un peu loin en disant que la métaphysique est aussi naturelle à l'homme que de tailler le silex ou que de faire du feu. Donc ce sont des activités qui, elles, sont évidentes en matière archéologique, mais qui requièrent une certaine place que l'homme se fait par sa pensée, de sa propre position dans ce qui n'est pas sa pensée. Et c'est cette interface entre sa pensée et le reste qui produit non seulement les objets, bien sûr, mais surtout sa métaphysique. C'est-à-dire, c'est un mot qui fait un peu effrayant à première vue, mais qui est simplement une explication de ce que l'homme est dans ce monde et de ce une autre explication qui est ce qu'est le monde, qui n'est pas lui-même. Et donc cette explication, figurez-vous, elle existe toujours, partout, y compris aujourd'hui. Elle est très prégnante. On peut y revenir, car l'absence de métaphysique me paraît fatale.
Marcelotte, vous écrivez en substance « L'esprit humain se dégageant de l'environnement a créé d'autres raisons d'être tout à fait artificielles, mais déterminantes pour la survie de la société ?»
Oui, ça c'est le paradoxe évidemment, c'est que si nous opposons, je pense que c'est le mot assez juste, nous opposons aux lois naturelles, aux déterminismes naturels, nous allons créer des règles qui, elles, vont devenir coercitives. C'est-à-dire que pour entrer dans un système social qui nous permet de subsister, ce sont ces règles-là qu'il va falloir respecter plutôt que les règles naturelles. Donc nous avons un paradoxe qui nous passons d'un système de règles naturelles à un système de règles culturelles. Dans ce mécanisme qui oppose la règle à l'audace, nous y revenons, que l'évolution humaine va se placer et va se créer sa propre destinée. Donc chaque règle, soit naturelle, soit sociale, est faite pour être transgressée. Et c'est dans cette transgression que l'évolution va trouver sa place.
Comment accéder donc forcément à ces mythes très anciens? Bien sûr, les modèles et les modes sépulcraux, les tombes, les manifestations artistiques, mais aussi l'étude des peuples nomades dans un environnement steppique?
Oui, en tous les cas, dans toutes les populations sauvages, je mets entre guillemets le terme, c'est-à-dire qui vivent très simplement avec la nature, en harmonie avec la nature, par opposition à celles qui l'exploitent, toutes les populations sauvages entretiennent toujours des rapports métaphysique donc, c'est-à-dire mythologique avec la nature. Par exemple, on ne veut pas abattre un animal de manière anodine. On ne va pas simplement manger un animal. On va le prélever dans la nature. Ou même une plante que l'on va récolter pour ses facultés médicinales, par exemple. Eh bien, tout ça procède d'un rituel, car dans toute population sauvage, une profonde solidarité est ressentie entre l'environnement et la société humaine dans laquelle elle vit et elle fonctionne. Donc chaque fois, il y a un processus de transgression de cet équilibre entre la nature, son environnement et la société humaine. Et il faut lever cette transgression par le rituel.
C'est-à-dire que les hommes n'établissent pas de distinction entre leur propre existence et le reste de la création, notamment les animaux ?
Oui, les animaux, bien sûr, parce que c'est le plus proche, par le comportement, l'animal le plus proche de l'humanité, et parmi les animaux, certains le sont encore davantage. C'est évidemment, c'est assez intéressant et amusant, c'est de voir que nous revenons à cette solidarité nature-culture aujourd'hui. On sait que, on sent même qu'il est indispensable de retrouver cette solidarité. Et c'est d'autant plus important pour nous, puisque nous sommes préhistoriens tout de même là maintenant, que pendant des millions d'années, je pèse mes mots, pendant des millions d'années, cette solidarité a toujours été respectée. Et il y a toujours eu, dans les populations sauvages actuelles, on observe qu'il y a toujours eu un respect des potentialités de reproduction de la nature sauvage dans le prélèvement que l'homme en fait pour sa propre subsistance. Dès qu'on a cassé ce respect, eh bien on est arrivé au néolithique, c'est-à-dire à la production exclusive de certains aliments, dont les céréales et certaines espèces animales. Et non seulement on a cassé le rythme de reproduction naturelle, mais surtout on a sélectionné seulement certaines espèces vivantes pour nous reproduire. Et ainsi, on a perdu toutes les capacités nutritives de l'environnement sauvage. Donc là, c'est c'est assez récent, ça fait une dizaine de milliers d'années. Et nous sommes toujours engagés dans ce processus autodestructeur.
Bien sûr, les mythes se perçoivent aussi dans l'art. Dans l'art, il faut peut-être évoquer justement cette exceptionnelle statuette de l'homme lion de Stadel qui serait vieille de 40 000 ans.
Oui. Oui, c'est une des plus intéressantes, d'abord parce que c'est une des plus anciennes en Europe, tout au moins, et qu'elle incarne cette dualité entre une silhouette humaine et une force animale qui n'est pas anodine, puisqu'il s'agit d'un animal dangereux, un lion des cavernes, dont l'image représente les deux à la fois. Comme si l'image, c'est important de souligner, l'image apparaît à ce moment-là. C'est-à-dire que plutôt qu'un récit, un récit mythologique, un récit oral qui serait transmis par les générations de l'une à l'autre, eh bien non, on crée une image qui, elle, va être perpétuelle, puisqu'elle nous parvient encore aujourd'hui, comme vous dites, après 40 000 ans. Donc le mythe, la pensée mythologique qui associe la force féline à la force humaine ou à la maîtrise humaine est devenue figée dans une image qui incarne cette espérance, cet espoir, voire cette conviction. Et là, nous sommes, non pas à l'origine du mythe, certainement pas, mais à l'origine d'une matérialisation mythologique qui va enclencher toute l'histoire des images jusqu'à aujourd'hui.
Là, on serait par exemple sur une sorte d'animal dangereux qui serait donc maîtrisé dans une sorte de symbole.
Oui, l'ensemble est une expression symbolique. Et le fait que ce soit un animal dangereux n'est pas par hasard, évidemment. C'est que l'homme lui-même se représente en étant intermédiaire entre cette dangerosité animale, très redoutée par ailleurs, et lui-même qui en serait le maître via l'image. Donc là, nous avons affaire à une incarnation d'une lutte métaphysique tout à fait fondamentale, qui veut dire, eh bien, nous sommes non seulement en symbiose avec l'animalité, avec la nature, mais en plus, nous la conquérons via l'image de cet animal dangereux associé à l'image humaine.
Marcel Hoth, comme l'écriture, le mythe au travers de l'art permet de maîtriser le monde, ce que l'homme ne pouvait pas encore contrôler auparavant ?
Je ne dirais pas ça, je dirais qu'il y a un processus continu qui est une forme d'emprise toujours plus intime, toujours plus forte du monde autour de soi par toute une série de processus successifs qui s'enclenchent. Et cet enclenchement-là, de l'un à l'autre, a un sens. Il se fait que, par exemple, la mythologie, au sens large, précède la religion, et que la religion polythéiste précède la religion monothéiste. Il y a à chaque fois une forme d'emprise toujours plus grande par la pensée, j'insiste, sur le monde. Et nous en trouvons des indices, par exemple, comme vous avez dit, via les sépultures, les images, l'agriculture, l'écriture. Chaque fois, ce sont des formes d'emprise spirituelle sur la nature. Donc, il y a un continuum. Mais ce qui est particulier à l'humanité, ce sont moins ces étapes successives que leur continuité perpétuelle. Car si l'on va ailleurs, en Chine, en Australie ou en Amérique, on a exactement la même succession. Ce qui montre bien qu'il y a une logique dans l'évolution de la pensée humaine.
Vous oubliez peut-être aussi un élément. Il y a l'habitat, le territoire.
Oui, nous n'avons pas encore parlé de tout ça, mais il est évident que la manière d'imprégner le territoire par un voile de connaissances sociales, puisqu'il s'agit de société tout de même, est aussi un défi que l'homme s'impose et qu'il va conquérir, domestiquer la nature via son mode d'utilisation de l'espace. Et cet espace, c'est aussi, on peut le décomposer en espace de différentes fonctions, mais surtout en espace chronofactorisé, puisque à chaque moment de cette emprise sur l'espace correspond une modalité dans cette emprise.
En conclusion, Marcel Hoth, nous avons vu le passé, mais qu'en est-il de l'avenir ? Les lois tirées du passé peuvent-elles nous armer pour maîtriser notre futur ?
Oui, je crois, oui, certainement. D'abord, il faudrait commencer par les connaître, hein, celles du passé, les respecter. C'est sûr qu'elles ne sont pas assez connues, c'est peut-être un peu de ma faute.
Marcel Hoth, merci beaucoup. Je rappelle votre prochain ouvrage aux éditions Odile Jacob, La contrainte et le rêve, ou comment l'humanité s'est-elle constituée. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pascal Bénard, et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez bien sûr écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inra.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 évoquera la révolution d'octobre et l'archéologie soviétique.